pour le forfait prévu pour la première de Dominique Philippe, 18 avril 2002 à Saint-Gédard.
Excusez si je vous ai fait attendre un petit peu, parce que on arrive presque à la fin du chapitre, alors c'est particulièrement important. Il faut prier pour eux. C'était vrai. Quand on a les États-Unis, le Mexique, le Canada, le Brésil, ça fait des mondes différents. Et en même temps, il y a une certaine unité dans tout ça, parce que ça, c'est la jeunesse de l'humanité et de l'Église. En même temps, l'Europe, elle est vieille. Et elle a les qualités, les défauts de la vieillesse. Et à côté, il y a la fébrilité de la jeunesse qui veut aller foncer. Nous en étions donc à réfléchir, une réflexion métaphysique. Il y aurait la réflexion psychologique qui est une conséquence. Parce que la plupart du temps, quand on prend l'homme et la femme, on prend le point de vue psychologique. Et on voit très peu la profondeur métaphysique. Tous les deux sont des êtres qui sont à la fois corporels et spirituels. Alors, suivant les différents courants, le point de vue du corps l'emporte. Et on fait presque une division, une opposition dialectique entre l'homme et la femme. Et il n'y a plus le sens profond de la finalité spirituelle qui les unit. On est très fort dans cette perspective-là. On ferait presque un syndicat féminin et un syndicat masculin. Quelquefois, on a vraiment l'impression de ça, qu'on arriverait qu'à ça. Alors qu'ils coopèrent l'un et l'autre à la même finalité de l'espèce humaine. Il faut qu'ils soient deux pour la survie de l'espèce. C'est une chose du reste qui est très importante à réfléchir, ça. Il faut qu'il soit deux pour la survie de l'espèce. Et alors on se demande, et alors ce serait intéressant de préciser, on se demande s'il ne faut pas qu'il soit deux pour la survie de l'esprit. On peut au moins poser la question. Parce que, au point de vue de l'espèce, c'est très visible. On voudrait qu'il ne soit plus deux dans la recherche actuelle. La dialectique d'opposition va jusque-là. Et elle doit s'arrêter à quelque chose de fondamental qui est la nature. Dieu, ne parlons pas de Dieu puisque on est en philosophie. L'espèce humaine se distingue, pas se divise, elle se distingue, homme et femme. Donc, cette distinction-là est une distinction fondamentale, elle a sa finalité propre. Sa finalité propre n'est pas la finalité de la personne. Alors, voyez, il y a une distinction que les modernes ont beaucoup de peine à faire, parce que dans des positions idéalistes et hegeliennes, on ne peut plus faire la distinction. Donc il faut bien voir cela, que la procréation est une finalité de la nature. Et la contemplation est une finalité de la personne. L'amitié peut être, alors, vous voyez, l'amitié peut être une finalité de la nature. Elle peut être une finalité de la personne. Et c'est subique qu'il y a diverses amitiés. En réalité, l'amitié devrait être toujours la finalité de l'aspect personnel. Quand l'amitié se dégrade, alors elle devient au niveau nature. On a l'amitié de similitude ou l'amitié de complémentarité. Et ça fait deux types d'amitié tout à fait différents. Mais en réalité, l'amitié est une fin personnelle. Vous voyez, c'est là où le combat entre nature et personne est le plus fort. C'est même très étonnant de voir ça. À la fois, on voudrait supprimer la nature, le monde d'aujourd'hui, hein, je regarde notre monde, on voudrait supprimer la nature, et au fond, on exalte le point de vue de la similitude, l'homosexualité. Dans la sexualité, on veut homo, c'est-à-dire similitude. Et on ne voit pas que là, on pêche contre la personne et on exalte la nature. Et philosophiquement, on veut supprimer la nature. Il y a une espèce de contradiction qui est idéologique. C'est l'idéologie. Et c'est intéressant à bien noter ça et à bien comprendre. Parce que on est devant ces problèmes-là, point de vue pratique. Notre philosophie, quand elle descend jusque dans les réalités profondes, on touche là. On doit comprendre comment l'homosexualité, au fond, est une faute au niveau de la nature. La nature fait qu'on est homme et femme. Pourquoi ? Pour la procréation. Donc l'homosexualité est une faute au niveau de la nature. Et c'est curieux qu'en raison de l'idéalisme, on supprime la nature. Et on ne veut plus que l'individu. Et c'est intéressant, je crois, de bien regarder ça comme ça. Parce que l'amitié, elle est personnelle. La véritable amitié, elle est personnelle. Et dans le mariage, on doit toujours considérer que la personne prime la nature. Et donc, on ne se marie pas au niveau de la nature, mais au niveau de la personne. Oui. En nous, nous avons tous nature et personne. Et c'est très important de voir où passe la distinction. Est-ce que pour vous, votre vie est avant tout naturelle? Elle est, ou au contraire, elle est avant tout personnelle. Il faut réfléchir sur ça. C'est un examen philosophique merveilleux, ça. Et très intéressant. Savoir qu'en nous, il y a la nature humaine. Nous sommes hommes et femmes, mais c'est au-delà de notre choix. Autant que possible, il vaut mieux que notre choix corresponde à la réalité. Hein? Je crois que c'est la sagesse élémentaire, ça. C'est la sagesse élémentaire. Parce que c'est une sagesse réaliste, l'autre, élémentaire. Nous sommes hommes, nous sommes femmes. Bon, il ne s'agit pas de rêver. Parce que ce rêve d'une femme qui ne pense qu'à être homme, qu'un homme qui ne pense qu'à être... C'est ce qui se passe, hélas, dans les choses terribles. C'est que les déguisements homme-femme, aujourd'hui, se font comme ça. Au fond, c'est le manque de réalisme de la nature. Le premier réalisme de la nature, c'est ça. Ils ont dit ça tout simplement en disant on est bien dans sa peau. Ça exprime cette réalité, c'est qu'on a l'intelligence de la situation. Et avoir l'intelligence de la situation, c'est quand même la première base. On connaît le terrain. Et il faut bien le connaître. On peut alors lutter. Si on connaît mal le terrain, c'est très dangereux. Et le terrain, c'est justement d'accepter au point de vue nature. Vous ne l'avez pas choisi. Et vous n'aviez jamais fait de rêve avant pour savoir s'il fallait mieux être homme ou femme. Vous n'aviez jamais fait de rêve avant, puisque vous n'existiez pas. Ce sont des rêves postérieurs et qui, par le fait même, ne sont pas réalistes du tout. Et le premier réalisme est là. Je crois que s'il n'y a pas ce premier réalisme, nous rejoindrons jamais l'être. C'est que l'être existant pour l'homme est nature et personne. Et vous devez, dans votre personnalité, que vous acquérez, tandis que votre nature, vous ne l'acquérez pas. Elle vous est donnée. Alors il y a des gens qui sont de mauvaise humeur toute leur vie. Parce qu'ils n'ont pas la nature qui correspond à leur personne, soi-disant. À la personne rêve. C'est la première erreur fondamentale. C'est un réalisme qui manque, celui-là. Et il est foncier. Le problème de la nature, c'est au fond un problème très important, ça. Le problème de la nature de la personne est très actuel. Alors, la nature, ordinairement, dans beaucoup de philosophies, est supprimée, il n'y a plus que la personne. Et quand la nature est supprimée, on ne peut plus concevoir vraiment la personne. On conçoit la personne à partir de la nature. Et si on supprime la nature, on supprime la personne. On a une conception idéaliste de la personne qui repose sur un rêve. Le rêve de Platon qui revient tout le temps. Platon a été rêveur pour toute l'humanité. C'est merveilleux. Un grand rêve pour toute l'humanité. Jusqu'à la fin de sa vie, il a rêvé. Peut-être qu'à la fin de sa vie, il rêvait moins. Et ce rêve existe à notre époque avec Hegel. C'est le même rêve. Mais la seule différence, c'est qu'il y a eu le christianisme entre deux. Alors le rêve hegelien est plus dangereux que le rêve platonicien. Il est encore plus loin de la réalité. Et c'est le rêve devant lequel on est. Notre humanité rêve hegelienne. Les rêves hegeliens qui prend tout. Même des chrétiens, des catholiques, ils sont saisis par ça. Alors, il faut, devant cela, être très réaliste. Et le réalisme premier consiste à voir la nature humaine, homme et femme, et la personne humaine, l'amitié, la contemplation. L'amitié, attention, il ne faut pas la pervertir. Mais ce n'est pas parce qu'on pervertit l'amitié qu'il faut la supprimer. Non, pas du tout. Il faut justement voir que l'amitié, la véritable amitié, est une chose essentielle à l'homme pour arriver à une véritable personnalité. Un homme qui ne peut pas vivre d'une véritable amitié, il y aura toujours quelque chose en lui qui sera bancal. Et une femme encore plus. Parce que l'amitié est fin. Mais une fin intermédiaire. Donc une fin qui est en même temps média. Un intermédiaire. Ce n'est pas une fin totale. Donc c'est une fin qui demande d'être dépassée. L'amitié, pour être véritablement, au point de vue humain, demande d'être dépassée par la contemplation. Une amitié qui ne veut plus la contemplation, très vite se corrompt. La contemplation est gardienne d'une véritable amitié. Et je crois que, justement, s'il n'y a pas cette amitié entre homme et femme, une véritable amitié entre homme et homme, femme et femme, la contemplation devient impossible. Il y a une rectification très profonde du problème de la nature et de l'amitié et de la personne par l'amitié. Oui, l'amitié se situe entre les deux. L'amitié implique un regard très profond sur la nature, sur le corps, sur ce qu'on est au point de vue naturel, et un regard très intuitif sur la fin, la finalité. Et s'il n'y a pas ce regard sur la finalité, je crois que l'amitié humaine se corrompt très vite. Parce que justement, elle est très difficile à garder son caractère propre. Vous voyez, par le fait même, que le problème de la personne, au point de vue philosophique, est absolument nécessaire à regarder très attentivement. Puisque la personne me montre ma fin véritable. La fin véritable consiste à contempler autant que je le peux l'être premier, à l'adorer et à le contempler autant que je le peux par l'adoration. Si si je ne découvre pas cela, je resterai à cette finalité intermédiaire qui est l'amitié. Cette finalité intermédiaire deviendra une finalité absolue s'il n'y a pas cette recherche de Dieu. Elle deviendra ma fin. Aucun autre bien ne peut remplacer ce bien si noble, si grand, qu'est la personne humaine. Qu'elle soit femme ou qu'elle soit homme, il n'y a aucun bien comparable à cela. Aucun bien sensible comparable à cela. Donc, si je nie l'existence de Dieu, si je dis c'est trop difficile pour moi chercher l'existence de Dieu, bon, je me rabats sur l'amitié. Voyons bien que la plupart des personnes, au fond, font ce raisonnement d'une manière inconsciente. Si vous aviez aujourd'hui des élections pour savoir si Dieu existe ou n'existe pas, vous auriez un partage des eaux très important. Et je crains qu'en Europe, il y ait la majorité de ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Mais c'est un problème actuel. Est-ce que ça changerait quelque chose de la vérité? Rien du tout. Ça changerait ma manière de vivre. Parce que je saurais, je suis dans un monde qui radicalement et fondamentalement est tout autre que mon monde qui accepte Dieu. Puisque il y aurait, au point de vue de la finalité, deux finalités totalement différentes. D'un côté, l'existence de Dieu, pour moi, me permet de dépasser l'amitié. De l'autre côté, la finalité la plus élevée, ce serait l'amitié. Je crois que ce serait très important, cela, de comprendre. On touche ça aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'au point de vue personnalité, accepter l'existence de Dieu ou ne pas accepter l'existence de Dieu, au point de vue personnalité, c'est une différence plus grande qu'entre homme et femme. Puisque la différence entre homme et femme est une différence par rapport à la procréation. Donc, cette finalité de la nature, la procréation est une fin pour la nature. Mais les deux personnes s'unissent dans cette recherche à l'égard de Dieu. Et il n'y a pas un Dieu féminin et un Dieu masculin. Non. Dieu est nécessairement au-dessus de la diversité de la nature. Et on verra ensuite, dès que j'ai posé l'existence de Dieu au point de vue philosophique, que c'est Dieu qui a pensé cette différence homme et femme. Et que cette différence vient de Dieu directement. Donc vouloir la modifier, c'est aller contre le point de vue de la création. C'est quand même très important de voir cela. C'est d'aller contre la sagesse de Dieu. Donc, la différence entre celui qui a découvert l'existence de Dieu, qui l'a découvert ou de lui-même, ou s'appuyant sur la tradition. Parce qu'il y a deux manières de découvrir l'existence de Dieu. Il y a une manière personnelle, philosophique, qui est évidemment la plus noble, et puis il y a une manière humble de découvrir l'existence de Dieu au point de vue pratique. C'est que, au point de vue pratique, je vois dans l'histoire de l'humanité que le problème de la transcendance a été toujours posé. Et donc, je dois me le poser moi-même. Donc, je vois que la distinction homme et femme se situe au niveau de la procréation et qu'il y a un dépassement de cette distinction vis-à-vis de la personne, vis-à-vis de la finalité. Il y a un dépassement. Mais cela ne veut pas dire que la distinction fondamentale est complètement dépassée. C'est ça, c'est là où le problème est philosophiquement très délicat. Vous voyez, je vois nettement que la distinction homme et femme est au niveau nature. Que cette distinction est dépassée au niveau personne et au point de vue de la finalité de la personne. Pour l'homme comme pour la femme, l'amitié humaine dépasse la distinction homme et femme. Je vois que la recherche de la vérité est la même pour l'homme et la femme. Et que la découverte de l'existence de Dieu est la même pour l'homme et la femme. Donc, même finalité au niveau contemplation. Mais cependant, puisque ma nature est coextensible au développement de ma personne, je ne dirais pas qu'à partir, par exemple, de 60 ans, je ne suis plus un homme, je ne suis plus une femme, je suis un homme de 60 ans, une femme de 60 ans. Et donc la distinction n'a existé qu'au niveau procréation. Non. Je reconnais que, en vieillissant, la distinction homme et femme se maintient. Mais elle n'est pas du tout la même. Et c'est là où c'est le point de vue très délicat au point de vue personnel. Dire que la distinction homme et femme ne joue qu'au niveau procréation. Donc, elle ne joue qu'au niveau végétatif. Ce serait une erreur. La distinction homme et femme existe bien en premier lieu au niveau végétatif, au niveau procréation. C'est sûr, ça. C'est bien évident. Le dépassement du point de vue de la vie végétative, de la vie de la nature se fait au niveau personnel, donc au niveau amitié. Il faut reconnaître que l'amitié homme et femme est différente que l'amitié entre homme et homme, entre femme et femme. Est-elle plus parfaite ? Ou est-elle simplement différente ? Qu'elle soit différente, je crois que l'expérience est là qui nous la montre. Autrement dit, la distinction fondamentale entre homme et femme au point de vue de la nature, au point de vue de la procréation, est substantiel. C'est une distinction substantielle. Ce n'est pas une distinction accidentelle. Et par le fait même, elle continue d'exister dans le dépassement de la personne humaine par rapport à la nature. Mais elle n'est plus du tout la même. Je crois qu'on peut dire que la distinction devient alors uniquement une distinction de modalité. Elle n'est plus substantielle. Au point de vue amitié, c'est la même finalité. Au point de vue contemplation, et découverte de Dieu, c'est la même contemplation. Mais elle est différente quant à sa manière d'être pour l'homme et pour la femme. Autrement dit, cette distinction naturelle, elle n'est pas uniquement fonctionnelle pour la procréation. Elle est radicale. Le corps est substantiellement un élément de la personne et non pas du tout un accident pour la procréation uniquement. Non, il y a quelque chose de plus fondamental qui est difficile à préciser au point de vue philosophique. Parce qu'au point de vue philosophique, au point de vue procréation, c'est net. Mais ce point de vue procréation est quelque chose substantiel. Ce n'est pas accidentel, c'est substantiel. Vous voyez ? Et je crois ça très important à noter. Si c'était accidentel, on pourrait, par l'éducation, la supprimer. Mais comme elle est substantielle, on ne peut pas la supprimer. Et comme elle est substantielle, elle se retrouve jusque dans la finalité, amitié et contemplation. Autrement dit, il y a une complémentarité qui va exister dans l'amitié, homme et femme, une complémentarité jusque dans la contemplation. Je crois qu'on doit l'affirmer, ça. Parce que la distinction homme et femme est quelque chose de substantiel, accidentel et substantiel. La relation du corps et de l'âme est une union substantielle qui n'est pas accidentelle. Elle fait pas. partie de ma nature. Donc on est devant une distinction qui est très nette au niveau procréation et une distinction qui demeure très profonde puisqu'elle est toujours substantielle. Beaucoup plus difficile à préciser au niveau amitié, au niveau contemplation. On peut essayer quand même de la préciser. On dira que la femme aura une sensibilité ordinairement, hein, on ne peut pas dire plus, parce qu'il y a des cas, une sensibilité plus aiguë, plus aiguisée que l'homme. Donc, elle sera beaucoup plus sensible à l'état de vie, à la manière particulière de vivre. Pour nous, on a un exemple très net quand on fait une visite dans un couvent de religieuses ou dans un couvent de religieux. Il y a quelque chose de très significatif. Et il faut essayer de l'analyser. C'est que la sensibilité féminine étant plus aiguisée ordinairement, la sensibilité masculine est plus, plus ronde, en quelque sorte, plus, ou plus carrée, ça dépend comment vous appelez. Et alors, au point de vue sensibilité, il y a une différence. Et cette sensibilité se traduit dans le milieu du vie. Parce que on écartera les obstacles en fonction de cette sensibilité. On construira le milieu vital en fonction de cette sensibilité. Que l'homme ne sentira pas toujours. Une sensibilité plus profonde, plus, on dira, plus féminine que l'homme. Et par le fait même, au point de vue image, imagination, l'imagination féminine sera différente de l'imagination masculine. Une diversité, pas d'espèce, une modalité. C'est-à-dire l'ordre qu'on établit dans l'imagination en vue de connaître sera différent. Tout l'aspect artistique qui exploite la sensibilité sera différente. La manière de saisir le milieu de vie a une qualité différente. Je ne veux pas dire que la qualité sera plus développée du côté féminin que du côté masculin, non. Ce sera beaucoup plus l'ordre de qualité. C'est dans l'ordre. On ne peut pas dire qu'il y a des couleurs féminines et des couleurs masculines. Non, je ne crois pas à ça. Il y aura des hommes qui ont exactement le même goût de couleur, le même goût d'harmonie. Mais c'est beaucoup plus justement dans l'harmonie, dans l'ordre. On pourra saisir la différence. Mais c'est beaucoup plus difficile à saisir, hein, parce que ce n'est pas spécifique. Ce sera uniquement une manière particulière de saisir les choses. Alors, cette sensibilité est dépassée par l'intelligence. Alors là, le problème devient encore plus délicat. Y a-t-il une intelligence masculine, une intelligence féminine? Y a-t-il des sciences dans lesquelles la femme est plus apte à développer que l'homme? Ça, les deux aspects sont loin. Au fond, ça dépend énormément des civilisations. Il y a des civilisations qui sont plus masculines et des civilisations qui sont plus féminines. Vous voyez? Dans certaines civilisations, la femme développera beaucoup plus sa prudence gouvernementale que l'homme. Dans d'autres régimes, l'homme développera beaucoup plus sa prudence. Il faut aller jusque-là. Puisque l'esprit se traduit du côté de l'art et du côté prudentiel. Du côté de l'art, l'alliance intelligence sensible est très nette. Du côté prudentiel, l'alliance de la finalité et des moyens est aussi très nette. Donc, s'il y a une distinction au niveau sensible, nécessairement, on retrouvera cette distinction au niveau artistique et au niveau prudentiel.